Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vous salue tous. Nous sommes présents dans les villes ce matin. Et vous tous qui nous suivez, nous sommes tous ensemble devant
Devant notre Seigneur. Je disais que je salue tout le monde, y compris ceux qui sont en Zoom actuellement. Mais ce matin, quand nous avons commencé notre culte, nous avons commencé par un chant où nous disons que voici le jour. Voici le jour où j'ai créé. Et c'est bien écrit le jour. C'était pas écrit un jour. Vous connaissez la différence entre les deux. Le jour, c'est le jour du sabbat. Le jour, c'est ce jour. C'est le jour du Seigneur. Le jour, ce jour, aujourd'hui, le dimanche, c'est le jour où nous avons reçu le commandement de réserver au Seigneur. Parce que Dieu nous dit, pendant la semaine, tu vas travailler pendant les 6 jours, mais il faut réserver le jour du sabbat, c'est pour moi. C'est donc ce jour-ci où nous avons rendez-vous avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Merci de l'avoir honoré ce commandement, vous tous et qui êtes ici, vous tous qui m'écoutez aujourd'hui. Et dans le message de ce dimanche, nous sommes toujours dans cette logique que nous avons commencé depuis le début de l'année, de nous dire que nous devons entreprendre un mot. Quand nous avons fait, nous avons eu l'Apocalypse dans les lettres envoyé aux églises, que Jean envoyait aux églises. Et nous l'avons vu aussi, nous l'avons vu tout au long de cette année dans la prédication, quand nous avons vu dans le livre d'Ésaïe 58, le message où nous parlions qui sont résumés dans aimer notre Dieu comme nous. De tout mon cœur, de toute notre pensée, mais d'aimer aussi les autres, d'autres humains comme nous. Et vous l'avez vu dans la prédication que nous avons faite depuis quelques semaines, que nous avons choisi prédication que nous avons vue avec le pasteur Philippe et le pasteur Herman, nous avons commencé à tenir le niveau de. Pourquoi ce livre de Néhémie? Parce que ce livre, comme nous l'avons vu, contient beaucoup d'enseignements, de leçons, qui montrent que sommes appelés, nous sommes interpellés, faire quelque chose, quelque chose. Ensuite, quelque chose qui s'est fissuré dans notre vie, dans notre Église, dans notre société. Et quand nous voyons, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Quand nous parlons de Néhémie, on peut se demander qui était Néhémie. Je crois que dans une partie de la prédication de Pasteur Iman la semaine passée, mais Néhémie, c'est une personne comme toi, comme moi, mais une personne, j'allais dire ordinaire, qui est devenue spéciale parce que Dieu l'a appelée. Dieu l'a appelée pour donner une mission. Néhémie, donc, c'était un juif. Un juif métier, mon Dieu. Jérusalem. Ailleurs. En Perse. C'est un juif qui était fidèle à Dieu parce que Il connaissait Dieu. Et Dieu à la porte du roi. Il un étranger qui avait reçu une grande responsabilité. Il occupait un poste de dans toutes les versions de la Bible, nous voilà l'empereur, c'est la même chose. Donc, c'est quelqu'un qui avait un élan social assez élevé, et responsable des vins du roi, des boissons du roi. Ça montre que c'est quelqu'un qui était de la haute société. Je le vois comme quelqu'un qui est certainement très bien habillé, dans un bon costume, parce qu'il était tout le temps à côté du roi. Et Dieu, c'est celui-là, il a choisi pour lui donner une autre mission. Et cette mission, c'était d'aller dans son pays. Là où il était, à Babylone, ce n'était pas son pays, qu'il devait retourner à Jérusalem, qui était son pays, la protection des murailles et des portes de Jérusalem. Et parce que Jérusalem a été dépassée par la guerre et que c'est dépassée comme hein, les murailles et les portes de son pays, ce travail de reconstruction. Mais ce n'était pas seulement la reconstruction physique des murs, c'était aussi la reconstruction sociale, administrative de ce pays à Jérusalem. Et c'est ça la responsabilité que nous avons eue. Divisé en trois parties. La première partie qui va du premier au deuxième chapitre, on voit Néhémie, on peut appeler ça la phase de préparation de la mission. C'est la phase où Néhémie envoie des messages, reçoit des informations, des messages qui viennent de Jérusalem, qui disent d'étendre la situation de Jérusalem, qui disent des mauvaises nouvelles, que les murs ont été détruites, que les portes, les portails du mur sont détruits, et que c'est un cette phase du premier et deuxième chapitre où Néhémie se décide, n'a pas décidé parce que Dieu l'envoie venu plus tard pour la mission d'aller reconstruire Jérusalem. Et c'est aussi la phase où il va faire des préparations des papiers, des autorisations pour qu'il puisse passer à travers le pays sans être arrêté, pour qu'il puisse être accueilli arrivé à Jérusalem, parce que partout, il y a des gens qui veulent le laisser passer. Ça, c'est la première partie. Quand on lit dans notre livre, donc la deuxième partie, on peut passer le troisième, sixième, quatre, troisième chapitre, quatrième, cinquième, sixième chapitre, c'est la phase de reconstruction proprement dite. C'est la phase où Néhémie arrivé à Jérusalem, il va commencer la reconstruction. Il va contacter des gens, des dirigeants qui étaient restés à Jérusalem. Ils vont se réunir et ils vont commencer les travaux de reconstruction. Mais c'est dans cette partie aussi, et c'est pour cela que je le souligne en rouge, qui va occuper notre publication d'aujourd'hui. Parce que c'est non seulement on va voir Néhémie qui commence la construction, mais nous allons aussi voir Néhémie qui va avoir des problèmes, qui va avoir des oppositions, qui va avoir des attaques. Des attaques par des gens, des gouverneurs qui étaient là, mais avant de la faire passer en partie par la pénétration de Herman. Et des attaques non seulement internes, mais aussi externes, des gouverneurs qui gouvernaient la région à ce moment-là, mais aussi des attaques internes des Juifs eux-mêmes qui vont commencer à avoir des disputes entre eux. Mais cette partie que j'appelle la principale, très importante, c'est là où nous allons voir au chapitre 6 aussi que finalement, malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces attaques, Néhémie et son équipe, ils vont finir la reconstruction. Et le travail sera fait en 52 jours, ce qui est un temps record. Cette subdivision, c'est ce que moi j'ai fait. Vous avez lu le chapitre pour avoir une complication du texte. Donc, la troisième partie serait du chapitre 7 au chapitre 13. De phase de réorganisation de la communauté juive à Jérusalem. Parce que ce moment-là, quand nous disons est arrivé, oui, il y avait la destruction physique de murailles et de portails, mais il y avait aussi une destruction, j'allais dire, sociale. Parce que les gens, les juifs qui étaient là, n'étaient plus vraiment les vrais juifs qu'on connaissait, parce qu'ils étaient mélangés avec d'autres peuples. Il y avait aussi, donc, il y avait un problème de foi, manque de loi, désorganisation totale. Donc, Néhémie aussi va, parce qu'il va rester pendant plus de 12 ans, il va aussi s'occuper de l'organisation sociale de sa société. Voici comment un peu son texte. Voilà. De deux, la phase de quand Néhémie et son équipe ont commencé la construction, des difficultés qu'ils ont reçues et comment ils se sont organisés pour faire ce travail jusqu'à ce qu'ils puissent arriver au succès de l'émission, qui est la reconstruction de la ville de Jérusalem. Comme l'a dit la mission de oui. La mission de Néhémie, comme je l'ai dit, c'était de tirer de Babylone pour aller à Jérusalem, de jouer dans la construction des murailles et des portes de Jérusalem. Néhémie a reçu sa mission parce qu'il a compris qu'il devait laisser Dieu lui-même diriger cette mission du début jusqu'à la fin. Néhémie a commencé à rencontrer beaucoup d'obstacles et d'attaques, mais il savait que Dieu était avec lui qui combattait. Cette communication, c'est Dieu cible pour toi. Je dis toi. Toi, pour que tu sentes que c'est toi qui es visé. Toi, pour que je sente que c'est moi qui suis visé. Quand Dieu est avec nous, tout devient possible. Imagine cette situation de l'ennemi. Il était dans un pays étranger. Il était sous l'autorité d'un roi étranger. Un roi qui avait vécu que qui était dans une position assez intéressante, vous pouvez dire, va chez le roi et lui demande l'autorisation de retourner dans son pays pour des réparations de mieux. Je ne sais pas si vous comprenez la situation de Néhémie, des choses pareilles. D'abord, il était bien socialement, et puis, oui, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire rester ici, je gagne ma vie assez facilement. Mais il est allé parce que c'est le Royaume-Uni qui a vu que Miami, après avoir entendu les nouvelles, il avait changé de nom. Et ils ont demandé pourquoi il change. Qu'est-ce qui ne va pas? Et il nous raconte les choses, de nouvelles, de mauvaises nouvelles. Et il demande l'autorisation d'aller dans son pays à Jérusalem faire les réparations. Et le roi accepte très facilement d'y aller. Et mais pour passer toutes les tâches, il donne tous les papiers nécessaires qu'on lui demandait pour faciliter le voyage, l'organisation pour chercher du matériel de construction. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur la façon, sur cette relation, parce que nous avons dit que nous parlons de notre relation entre nous et Dieu, d'instaurer notre relation avec Dieu. Ici, nous allons voir dans la prédication cette relation de Néhémie avec Dieu, les choses marchent comme il faut. Dès le départ, c'est mauvaise nouvelle. La première chose, quand nous commençons à lire le livre de Néhémie, chose qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à prier, il a jeûné, il a prié, il a scellé devant Dieu, il a demandé à Dieu ce qu'il peut faire. Et nous voyons dans ce chapitre de prière de Néhémie. Avons péché. À l'endroit de son peuple, Néhémie qui s'humilie et qui prie. Mais quand ça m'appelle ce verset de Chronique 7:14 qui dit que quand mon peuple va s'humilier, quand mon peuple se repent, quand mon peuple demande pardon, sincèrement, et que je retrouve du péché, là, je l'écouterai, je le défendrai, je le sauverai. Ça, quand on me dit ça, je me suis rappelé de ce texte. Donc, il prie et le Dieu l'écoute et on donne cette émission. Donc, nous voyons déjà que la main de Dieu sur Miami, parce qu'il demande une autorisation qu'on croyait difficile ou impossible. Le roi de dans son pays et le roi accepte et lui facilite la tâche. Ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu qui est sur Néhémie, qu'il demande des choses que le roi, qui était à la cause de l'annexion de Jérusalem, lui accorde l'autorisation d'aller dans son pays pour faire des réparations. Donc, suivez-moi cette analyse, je veux faciliter, parler de notre Dieu, de dire que c'est Dieu qui a vu possible. Dieu est du côté de l'ennemi. Ce qu'il demande au roi, il reçoit. Quand nous voyons donc le verset 2, chapitre 2, verset 8, chapitre 2, verset 8. Je vais lire ça. Néhémie, chapitre 2, verset 8, nous dit ceci. Ainsi qu'une lettre, peut-être une partie qui dit que la dernière phrase, l'empereur dans ses lettres, car mon Dieu agissait avec bonté à ma faveur. Voilà. Donc, vous allez voir tout au long de ce livre de Néhémie que chaque fois, quand il est devant un problème, devant une situation, il dit, Dieu est de mon côté. Dieu va me combattre pour moi. Dieu est en ma... Tout est fait par Dieu. Tout ceci, nous allons le voir tout au long de ce texte. Donc, tout le pied nécessaire, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ça, c'est la version que Dieu dans ma Bible que je vais vous citer. Donc, nous voyons déjà qui commence sa mission avec toute sa confiance, que Dieu est-il de son côté, que Dieu va tout faire. On peut se demander, en tant qu'humain, quand nous avons une mission si importante, de se poser la question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je retourne dans ce pays? Est-ce que je vais facilement cette reconstruction des murailles? Nous devons comprendre que la muraille, à son talent, c'était un mur qui entourait la ville, qui servait surtout pour la protection de la ville, où il y avait un système de garde, où les gens devaient voir les gens qui pouvaient les attaquer. Mais ce même temps où les guerres se faisaient entre les pays, où les groupes ethniques qui étaient voisines, mais il y a aussi des portes. Donc, ce qu'ils devaient faire d'abord, c'est de construire le mur, les murailles, pour se protéger. Et quand ils ont commencé, la construction d'un demi-mur. Nous voyons déjà, donc ils se sont organisés, il a trouvé des gens sur place, ils ont planifié comment faire de la construction. Ce que nous retenons, surtout au chapitre 3, c'est l'organisation des travaux. Ça, c'est très important. Et je voudrais que tout au long de cette prédication, quand je parle de Bethléem, nous sommes appelés le consommer de Saint-Ali. Donc, ce qu'il y a une analogie, il y a une comparaison. Que Jérusalem, ça c'était pour Néhémie, mais nous, notre Jérusalem peut-être la reconstruction, la revitalisation de notre ville de Saint-Henri. Nous pouvons avoir des attaques, nous pouvons avoir des obstacles, comme nous allons voir maintenant, mais par l'après, nous avons une aussi, prendre le temps de voir notre ville de Saint-Henri, qu'est-ce qui se passe? Nous parlons de l'hôpitalisation. L'hôpitalisation, la construction, c'est presque la même chose. Parce que Néhémie aussi a fait de la revitalisation de Jérusalem lorsqu'il a fait une réorganisation administrative de son peuple, du peuple du peuple. Bon. Nous avons donc au chapitre 1 que l'organisation des gens se partageait les tâches. Et quand on ne va pas revenir tout chapitre parce que c'est trop long, on voit qu'ils s'organisent pour que les gens puissent, parce qu'il y avait plusieurs tribus. Une tâche à chaque tribu. Vous avez construit cette partie-ci, cette partie-là, cette partie-là. Et tous les travaux, des gens, des responsables qui étaient à côté pour le faire. C'est la même chose pour nous. Si nous voulons dévitaliser, si nous voulons des choses pour notre société, nous devons nous répartir des tâches. Une seule personne ne peut pas tout faire. Nous devons nous répartir des tâches selon les facilités. Parce que il proposait qu'on fasse des travaux sur le miracle, sur le portail. D'habiter, que c'est notre facilité. Nous aussi, nous avons des tâches selon nos facilités. C'est ce que moi je peux faire. C'est ce que toi tu peux faire. Et pour chapitre 3, on voit qu'ils se sont organisés pour se prêter des tâches, mais ce conflit. Tout la guerre. Et qu'à côté, il y avait des rois, la première fois passée, il y avait des rois, il y avait des d'arc, il y avait des gouverneurs étrangers qui avaient contribué à la destruction de la ville de Jérusalem. Et quand ils ont entendu que il avait commencé la construction, ils ont été, n'étaient pas contents. Ils sont venus saboter. Ils sont venus saboter. C'est ce que nous avons qualifié ça d'attaque externe. Parce que nous avons parlé aussi d'attaque interne. Quand nous voyons chapitre 2, verset 12, chapitre 2, verset 12, nous dit ceci. Je sortis avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait dit à que Jérusalem. Je ne dispose pas d'autre bête que de ma propre monture. Donc, ici, quand je dis je sortis, la question de savoir. Sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait dit que de faire pour Jérusalem. Ici, c'est la première fois que nous voyons que l'ennemi avait su quelque chose, avait su une mission de Dieu pour aller faire son travail. Donc, le travail qu'il était en train de faire, c'était pas son évasion. C'est Dieu qui lui avait demandé de le faire. Et quand nous avons... C'est 18. Je vais en compter. Nous sommes en train de voir le rapport de Dieu et l'ennemi dans le travail de reconstruction qu'il est appelé à faire. Nous venons de voir que c'était une mission que Dieu lui avait donnée. Ce que je prends ici, ça montre que tout le processus de reconstruction, c'était Dieu qui était avec lui et qui le faisait faire son travail. Et quand nous voyons verset 20, chapitre 2, verset 20, ça nous dit ceci. Il y avait des menaces, donc ça, bien, comme, la preuve que quand ils sont arrivés, il y avait des rois. Nous avons vu la fois passée Sanballat, qui est le roi du Samaritain, et d'autres personnes qui étaient là, et qui sont venus, qui n'étaient pas contents, qui voulaient les attaquer, les empêcher de faire la construction. Donc, au verset 20, Sanballat, de ses amis, je lui fais cette réponse, le bruit des cieux, le succès. Donc, il avait entendu que on a projeté de venir non seulement le tuer, mais tuer aussi d'autres, ses amis qui étaient en train de faire la construction. Et quand il a entendu ça, il ne s'est pas découragé. Il a plutôt fait un message à ses agresseurs, ça n'a pas été les autres, Dieu des cieux nous donnera au succès. Ceci nous montre une leçon de courage que nous devons avoir. Dans toute action que nous entreprenons, nous voulons faire quelque chose pour notre église, nous voulons faire quelque chose pour notre pays, nous voulons faire quelque chose pour notre famille. En fonction des attaques que nous recevons, il faut avoir le courage. Et donc, ce courage nous est donné par Dieu. Souvent, Dieu, le Dieu, nous donne le succès. Quand nous voyons chapitre 4, verset 15. Le gardant, chapitre 4, verset 15. Et après nos prières, où je lis ce que j'avais fait en résumé ici. Bon, verset 15. C'est ainsi que chaque jour, suivions notre entreprise, la matière d'entre nous, tenant l'avance l'un depuis l'autre, depuis le jusqu'à l'apparition des étoiles. D'autant, je dis encore à mon peuple, chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son collaborateur. Ainsi, nous pouvons garde dans la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ceci, nous sommes, dans ce chapitre 4, nous sommes dans cette situation grave où ces gens en train de faire des travaux de construction, reçoivent dernièrement des attaques et ils devaient se défendre. Ça veut dire qu'ils faisaient la demande de reconstruction, mais aussi des armes à côté. Et parce qu'ils attendaient, ils attendaient à être envahis, ces ennemis de Sanballat et les autres. Mais l'action, c'est quoi? C'est la prière. Ils ont prié. C'est 15. Ça, c'est très important, il faut souligner ça. Dieu anéantit le projet. Donc, Sanballat et les autres avaient préparé une bataille, en tout cas une attaque contre ses amis. Et Dieu anéantit la muraille, chacun à son ouvrage. Donc, nous voulons dire que il faisait la construction, mais on devait aussi avoir des armes à côté pour se défendre. Et quand Sanballat préparait l'attaque, Dieu a anéanti l'attaque. Ça veut dire que et ses amis, en fait, ils ont gagné même sans combattre. Parce que Dieu a anéanti l'attaque qu'il devait avoir. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que si on nous attaque en train de faire l'œuvre de Dieu, en fait, nous ne devons pas nous en faire parce que Dieu est là. Nous sommes en train de faire son travail. Et Dieu s'occupe de notre défense. Dieu va anéantir les attaques que nous allons recevoir. Un exemple, si nous disons que nous voulons faire du travail dans l'Église, que nous entendons qu'il y a des gens qui. Peut-être nos voisins qui disent que non, 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 dans cette église, peut-être on crie beaucoup, peut-être on nous empêche de dormir, on nous empêche de travailler. Non, non, pas de se faire. Nous disons, Dieu, ce Dieu que nous servons, va s'occuper de ces attaques-là. Il va anéantir les attaques que nous allons recevoir. Parce que ce n'est pas notre travail, ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler de Dieu. C'est à ce Dieu-là de se défendre, donc de nous défendre. Je ne sais pas si vous suivez le fil de mes idées de montrer que notre relation avec Dieu dans toutes les démarches que nous faisons, c'est très important de tout confier à Dieu. Parce que c'est ça le titre que nous devons. Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Personne. Donc, tout ce que nous voyons, contre Néhémie et ses amis, en fait, nous voulons bien aboutir à rien, parce que Dieu est là. Parce que c'est le travail de Dieu que Néhémie était en train de faire. Nous aussi, ce que nous sommes en train de faire, nous devons de l'Église, ou de l'Église, nous posons pas beaucoup de questions si ça va réussir ou non. Ça va réussir parce que c'est pas notre travail, c'est le travail de notre Dieu. Et puis, continuons de voir ce que Dieu fait. Et quand nous nous confions à lui. Verset 20, chapitre 4, verset 20, c'est de ceci. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, notre Dieu combattra pour nous. Donc, c'est quand, voilà, quand nous avons vu que les ennemis de l'ennemi étaient là, planifiés de tous les côtés, ils avaient inventé beaucoup de choses, ils l'avaient vu la fois passée, ils ont voulu les combattre, ça n'a pas marché, ils ont voulu utiliser une ruse pour demander de donner un lion avec eux. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu avec les camps de la communauté juive. Mais pour lui demander de faciliter l'attaque, ça n'a pas marché. C'est à ce moment-là que j'ai dit à ces gens, rassemblez-vous autour de nous. Parce que je suis sûr que notre Dieu battra pour nous. Ça, c'est le verset 20. Donc, ça veut dire que ne vous inquiétez pas. Ils disent qu'ils vont nous attaquer. Non. Ils ne vont pas y parvenir. Parce que nous sommes protégés. Nous sommes protégés par le plus fort, par le Dieu qui nous a envoyé faire sortir cette émission. Donc ça, c'est une assurance, une sens d'être protégé. Et son travail de reconstruction n'a pas eu seulement des attaques externes, des attaques des étrangers, des non-juifs qui veulent empêcher de faire la construction. Mais ils faisaient de la construction, mais ils avaient des problèmes côté organisationnel. Organisationnel parce que la répartition des tâches, concernant la répartition des villes, qui devaient avoir, contenir certaines recettes qu'ils devaient avoir, contre la répartition des esclaves, donc de façon de dispute interne. S'empêcher le travail d'avancer. Et nous aussi devons aussi s'occuper de cela. Et de cela, en ce qu'il a dit, le chapitre 5, le 7. Dit ça, c'est à ses amis juifs. Nous devons marcher dans la crainte de notre Dieu et pas se faire insulter par des nations ennemies. Est-ce que vous êtes en train de disputer entre vous? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de gaspiller vos ressources alors que nous avons des ennemis qui nous attaquent? Est-ce que sans songer qu'il faut seulement garder votre unité, notre unité, pour qu'une puissions résister plutôt aux attaques externes. Et il dit, je ne vais pas marcher dans la crainte de notre Dieu et se faire insulter ou se faire attaquer par nos ennemis. Ceci nous dit quoi? Quand nous commençons une entreprise et quand nous voulons faire quelque chose dans le travail de Dieu, nous allons vers des attaques. Nous avons des obstacles. Mais les attaques que nous allons voir, nous serons nécessairement, nous viendrons seulement de l'extérieur. Nous pouvons aussi avoir des attaques internes au niveau de nous, au niveau entre nous, des différences, des discussions concernant certaines petites choses, mais qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur le travail de notre Église. Je donne l'exemple de l'Église parce que c'est ça que j'ai en tête, mais aussi parler aussi de son pays ou de sa famille. Les attaques internes aussi, il faut en tenir compte et chercher des solutions pour ça. Donc, quand nous voyons que, à part de ces attaques, de ces disputes internes, qui parlent de justice sociale, et que nous aussi a donné des solutions pour se dire, non, non, ne soyez pas, ne prenez pas votre temps dans ces querelles intestines, ça ne sert à rien. Notre problème, c'est de résister à l'attaque de ces étrangers. Voilà. Et ceci nous montre que dans notre travail de reconciliation, dans notre travail de revitalisation, dans notre vie de famille, des choses. Mais si ce que nous faisons n'est pas selon la volonté de Dieu, nous allons échouer. Si Dieu n'est pas avec nous, nous allons toujours échouer. Nous parlons ici des des activités de revitalisation de notre Église. Est-ce que nous suivons ce chemin de Néhémie? Regarde sa stratégie qu'il a fait, qu'il a prié avant de commencer son travail. Tout au long de son travail, il a prié et il montrait aux gens que ce qu'il faisait était entre les mains de Dieu, que la main de Dieu était sur lui et sur son peuple. C'est ça que nous devons aussi avoir pour notre Église de Saint-Henri. Oui. De la muraille et de brèches qui est aussi le mieux. Nous avons des brèches au niveau de notre église. Mais des brèches, on peut le voir dans beaucoup de choses. S'il y a peut-être des choses que nous aimerions qu'elles puissent aller mieux. Qu'est-ce que c'est une brèche? Une brèche, c'est un certain trou, c'est quelque chose qui était là, mais qui n'est plus là. Est-ce qu'au niveau de notre église de Saint-Henri, il n'y a pas certaines choses qu'on peut réparer? Quand nous voyons des gens qui étaient dans notre église et maintenant qui ne sont plus dans notre église, c'est une brèche parce qu'ils sont partis. Comment est-ce qu'on peut fermer ces brèches? Quand nous voyons la façon de participation aux prières qu'on avait depuis un certain temps, maintenant qui diminue, qui disparaît, ça c'est une brèche. Comment est-ce qu'on peut réparer ces brèches? Nous sommes tous, vous et moi, interpellés par ce message, de montrer que dans notre relation avec Dieu, il y a des choses que nous devons faire individuellement. Et autre chose, quelqu'un qui n'est pas une autorité de son pays, parce que le pays lui-même n'est pas amené à Jérusalem, il était à Babylone, donc à l'étranger. Donc ça veut dire que c'est un individu comme tant d'autres, mais que Dieu a pris. Dieu aussi peut te choisir, toi, aujourd'hui, pour te confier une mission pour ton église, pour ton pays. Et ce que tu dois faire, c'est de savoir. Oui, si Dieu me demande de le faire, parce que c'est son travail, donc j'accepte. Dans son livre que j'ai lu, ce que nous avons vu, ça a été son travail. Il a posé une question, qu'est-ce que je vais le faire? Je ne suis pas éloquent, qu'est-ce que je vais faire? Mais tout de suite accepté. Parce qu'il savait que c'est une mission de Dieu. Nous aussi, toi aussi, aujourd'hui, Dieu t'appelle. Ne te pose pas de questions. Si tu veux t'appeler pour servir ton Église, Dieu va te donner les moyens. Il accepte la mission, Dieu nous a donné les moyens et il a facilité la tâche. Il a facilité le succès et il a vaincu les obstacles qu'il a rencontrés. Qu'est-ce que nous pouvons faire? En premier lieu, c'est un bon exemple de fidélité à Dieu. De fidélité pourquoi? De fidélité parce qu'il savait que chaque fois parce qu'il savait que c'est la mission de Dieu, nous l'avons vu, mais aussi qu'à chaque étape de son activité, il doit se mettre entre les mains de Dieu. Et il disait tout le temps, oui. La face de Dieu, la main de Dieu est sur nous. Est sur nous. Donc, nous devons fidélité à Dieu. C'est aussi un exemple de courage. De courage parce que dans le travail qu'il a fait, il a eu beaucoup d'attaques. Il a eu beaucoup de menaces, même contre sa vie. Mais il savait qu'il était protégé et il a fini son travail. Et. Si c'est un exemple aussi de déclaration face aux adversaires. Quand nous avons chapitre 5 et 6, nous avons vu qu'il y a des attaques. Il C'est un domaine de persévérance, passe en difficulté, parce que vous savez que ces ennemis étaient avec qui étaient en train de et qu'ils ne voulaient être attaqués. Et la préparation son peuple nous disant, si Dieu est pour nous, personne ne pourra nous vaincre, personne ne pourra être contre nous. Et nous devons suivre cette méthodologie de Néhémie, qui serait le plus efficace, cette méthodologie de que le travail que nous faisons, si nous mettons entre les mains de Dieu, nous sommes sûrs que nous sommes sûrs de réussir. L'Église ne passe soumise à la fin des travaux. La fin des travaux, parce que nous sommes équipés. Malgré ces difficultés, ils ont tenu le travail de reconstruction dans un temps record, presque 2 mois. 2 mois, le travail qu'ils devaient faire, ça montre que réellement, ce n'est pas les forces ou l'ingéniosité qui a agi, c'est plutôt la main de Dieu qui a fait ce travail. Et ce qui est intéressant de lire ici, c'est quand on lit verset 15 et 16 de chapitre 5, nous voyons ceci. La fin de ce miracle, il fit achever 52 jours. Mais écoutez-moi ça, c'est que lorsque tous les ennemis apprirent la suite de la crainte, ils ont trouvé une grande humiliation. Et le s'est accompli par la volonté de notre Dieu. Merci, j'ai écrit la même parce que ça montre que les difficultés que nous rencontrons, quelquefois sont nécessaires. Quelquefois sont nécessaires parce que quand nous réussissons, quand Dieu fait que nous réussissons, en fait, ça donne une leçon aux autres, aux adversaires, aux gens qui étaient contre nous, pour montrer que la puissance de Dieu, donc que Dieu est tout puissant, que Dieu ne peut se faire sans la puissance de Dieu. Donc, je termine donc en disant que l'obstacle, ils attaquent, parce que c'est non seulement ça nous les conforte, mais aussi, quand nous réussissons, c'est un bon témoignage, c'est un bon témoignage pour nous, mais pour les autres, pour montrer que Dieu est tout-puissant et que si Dieu est avec nous, nous sommes sûrs de réussir. Et comme nous faisons confiance à notre Dieu, si Dieu, qui sera contre nous? Je crois que c'est ça notre conclusion. C'est ça notre conclusion. Confions-nous à notre Dieu. Oui, acceptons la mission qu'il nous donne. Cette mission de reconstruction. Nous aussi, Dieu peut nous donner d'autres, beaucoup, beaucoup de missions. Mais nous ne posons pas de questions. Acceptons sa mission et mettons-nous en œuvre. Et surtout, bien que chaque fois que nous commençons, nous allons avoir des difficultés, nous allons avoir des oppositions, mais référons-nous à Dieu et demandons son aide dans le travail que nous sommes en train de faire. Voilà le message que nous voulons vous transmettre aujourd'hui. Tout le monde nous montrer que nous sommes dans de bonnes mains. Nous sommes dans de bonnes mains. Et Dieu est avec nous et acceptons, n'hésitons pas que ce soit. Parce que Dieu est de notre côté. Et on a commencé en disant que quand Dieu est de notre côté, tout devient possible, même des choses que nous croyons impossibles. Amen.